vendredi 12 avril, ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, un ex-employé de l'Agence spatiale canadienne à Longueuil a été acquitté aujourd'hui d'avoir parallèlement œuvré clandestinement au bénéfice d'une entreprise chinoise. L'accusé a bénéficié du doute raisonnable dans cette affaire. Philippe Bonneville.
L'ingénieur Wan Ping Zheng était accusé d'abus de confiance et la couronne prétendait qu'il avait trahi le Canada en aidant, sans jamais le révéler à son employeur, une entreprise chinoise de satellites. Le juge du procès affirme que ce résident de Brossard, âgé de 63 ans, a effectivement enfreint à plusieurs reprises le code de conduite de l'agence spatiale, qu'il a commis de nombreuses fautes disciplinaires et de graves erreurs de jugement. Mais la poursuite n'a pas réussi à démontrer hors de tout doute raisonnable que Zheng a commis des gestes criminels, selon le tribunal. Andrew Barbaki représente l'accusé.
Monsieur Zheng a peut-être agi comme mauvais employé, mais il n'a rien fait de criminel.
Mais le dossier n'est peut-être pas terminé, affirme Marc Sigana de la Couronne.
Nous allons étudier le jugement et vérifier quelles sont nos options et un appel sera étudié.
Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles, au Palais de justice de Longueuil.
Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dit que le gouvernement fédéral prend des mesures sur le logement parce que certaines provinces ne prennent pas leurs responsabilités sur cet enjeu. Le gouvernement Trudeau a fait une nouvelle annonce sur le logement ce matin en vue de la présentation de son budget la semaine prochaine. Interrogé sur les critiques de certaines provinces qui accusent Ottawa de s'arroger leur pouvoir, M. Trudeau a eu cette réponse cinglante.
On est en train de le faire et là, il chigne parce que on est en train d'agir pour lutter contre la crise du logement. C'est un peu ridicule. Comme on a vu, il y a plusieurs provinces, dont le Québec et la Colombie-Britannique, qui ont démontré un niveau d'ambition maximal. D'autres provinces ne veulent pas agir avec ambition, ne veulent pas répondre aux défis.
Le premier ministre français Gabriel Attal a conclu sa visite officielle à Québec. Il a nuancé la politique de non-ingérence et de non-indifférence de la France à l'égard du projet de souveraineté du Québec. Monsieur Attal parle plutôt de sensibilité et de respect des aspirations des Québécois.
Si je commençais à répondre, y compris en me projetant sur des choix que pourraient être amenés à faire et à trancher les Québécoises et les Québécois, ça donnerait l'impression que moi-même je participe au débat et que je donne une orientation. Or, je respecte trop le Québec, les Québécoises, les Québécois et leurs représentants élus démocratiquement pour entrer dans ces débats-là.
La vérificatrice générale du Québec a déclenché un audit sur le déploiement de la plateforme numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec, SACLIC. Sur son site web, la vérificatrice générale recherche maintenant les témoignages de Québécois qui ont été touchés par les ratés de la transition numérique. Mathieu Paquette.
Le déploiement de SACLIC a causé de nombreux maux de tête aux Québécois lors de son lancement à l'hiver 2023. Les centres de services de la SAAQ avaient notamment dû être fermés pendant 2 semaines pour permettre la transition, ce qui a entraîné de longues files d'attente à leur réouverture. Le tout avait été qualifié de fiasco par le ministre du Numérique, Éric Kerr, et avait coûté au moins 41 millions de dollars. Afin de faire la lumière sur ce dossier, la vérificatrice générale Guylaine Leclerc a lancé un audit. Les Québécois qui ont eu des mésaventures avec SACLIC sont donc invités à aller raconter leur histoire par écrit sur le site de la vérificatrice générale et à fournir toute preuve documentaire pertinente. La publication du rapport lié à cet audit de la vérificatrice générale est actuellement prévue pour l'hiver 2025. Ici Mathieu Paquette de la Presse canadienne.
Et des cours d'eau sont sous surveillance au Québec en raison de la pluie et de la fonte des neiges. Dans la Naudière, Vigilance Québec rapporte 2 inondations moyennes, celle de la rivière Noire à Saint-Émilie-de-l'Énergie et celle de la rivière Ouarou près des chutes de Radune. 7 autres secteurs sont sous surveillance dans la province, dont la rivière L'Assomption à Joliette et la rivière Chaudière en Beauce. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Pierre, tes prédictions pour les séries?
Cette année, sans hésiter, je dirais que Hyundai va être l'équipe à battre.
Bien d'accord avec toi, ils vont être à surveiller.
Ils présentent tout un alignement. De joueurs de concession comme le nouveau Santa Fe, des vétérans fiables comme l'Elantra et le Tucson. Et de plus, c'est l'événement Hyundai en série avec du financement à partir de 3,99% sur version sélectionnée.
Un modèle à suivre en particulier?
Ah, Marc, je garderai un œil sur le Kona N-Line avec son rabais additionnel de 500$. Profitez de l'événement Hyundai en série. Des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire pour les détails.
Du 2 avril au 14 mai, dans nos 3 restaurants Bon Voyage de la région, les enfants mangent pour seulement 2,50 $ tous les soirs. Oui, 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 t'as bien entendu. Le menu pour enfants est à seulement 2,50 $. En faisant un dessin, votre enfant pourrait vous faire gagner très gros. Un forfait pour 4 personnes à l'Océanique de Rimouski pour la saison 2024-2025 ou un cadeau mystère visible seulement dans un de nos 3 restaurants. Vous êtes curieux, là, hein? Les restaurants Bon Voyage, vos restaurants familiaux par excellence.
Un enfant participant à la adulte qui commence un repas principal, le concours est valide tous les jours. De 16h jusqu'au 14 mai, inclusivement.
CFIX FM.
FM 93. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets qui vous mettent et qui vous mettent. Vous allez en entendre parler à CFIX FM 93.
Jusqu'à 15h, vous écoutez Sans réserve. Sans réserve. L'émission d'affaires publiques. Voici Luc Ferrandez.
C'est la troisième heure de l'émission. On va notamment parler de... Il y aura Valérie Roberts qui va venir nous parler du week-end musical puis des événements culturels de la semaine. Avec Francisco Randez, on a évoqué le décrochage scolaire, le sien en particulier, et les solutions pour s'en sortir. On va parler aussi de ce phénomène des cigales. Est-ce que vous savez combien il y a de cigales dans le sol? Il y en aurait des quadrillions. Là, on arrive au moment où les chiffres ne sont plus compréhensibles, sont même difficiles à décrire, en tout cas impossibles à décrire avec des mots. Là. Un quadrillion, c'est un million de trillions. Et un trillion, c'est un million de billions. Un billion, c'est un million de milliards. C'est mille milliards. C'est énorme. En tout cas, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est juste trop. Il n'y a rien que tu peux compter avec ce chiffre-là. Rien que de ce qu'on connaît. Peut-être les grains de sable. Et là, il y en aurait, en tout cas, des milliers de milliards qui vont sortir de ces quadrillions de cigales. Il y en a des milliers de milliards qui vont sortir dans le sud des États-Unis, tout en même temps. Et on va se poser la question des impacts que ça va avoir. Vous allez voir, c'est fascinant. C'est des articles, il y en a plusieurs, et puis à travers le monde. Et puis intéressant, celui de la presse est très complet. Mais avant tout, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de parler à Jean-Luc Brassard. Bonjour.
Salut Luc, j'avoue que je suis un petit peu mêlé par rapport à tes chiffres là, de milliards et de...
Moi aussi, sans doute que j'ai pas été précis, là, t'es pas mêlé pour rien. C'est impossible à quelqu'un qui n'est pas un mathématicien de bien décrire, je pense, ce qu'est un quadrillon.
Non, c'est compliqué, il n'y a pas d'erreur. Je vais te parler de quelque chose de plus simple, mais de plus concret. C'est un article qui est sorti il y a quelque temps et en fait, c'est les résultats d'une ONG qui s'appelle Surfrider Foundation. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en vue des Jeux de Paris qui vont se dérouler en 2024, ils ont voulu savoir où on était au niveau de la qualité de l'eau. On s'en était déjà parlé, là. Il faut pas être à l'encontre, à tout point de vue, des Jeux olympiques, bien au contraire. D'ailleurs, c'est très louable là, qu'on veuille dépolluer la Seine pour la rendre accessible à la baignade, mais ça semble être une tâche qui est colossale. Et cette ONG, ce qu'elle a réalisé en faisant des prélèvements d'eau qui étaient assez réguliers, et bien sûr, les 14 tests qu'ils ont faits de septembre 2023 à mars 2024, ils les ont réalisés entre les ponts de l'Alma et le pont Alexandre III. Ça va être à ces endroits précis que vont avoir lieu les épreuves de nage en eau libre. Bien, de tous ces tests, il y en a un seul qui s'est montré satisfaisant au niveau de la qualité de l'eau. Alors, tous les autres, pour l'instant, ont dépassé. Ouais, les autres, ils ont dépassé ou ils ont largement dépassé les normes de la Fédération internationale de natation et de triathlon. Alors, ce qu'on a trouvé, mais la bactérie E. coli, avec une concentration de 2 à 7 fois plus élevée que la norme, ainsi que des bactéries intestinales, ce qui veut dire qu'il y avait une pollution qui était d'origine fécale. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement recensé les autres pollutions, les autres types de pollution, là, que ce soit chimique ou biologique. Ils se sont concentrés sur ce type de polluants-là parce que ça peut être les plus directs, ils peuvent avoir un impact les plus directs sur les athlètes. Alors, ces athlètes, lors des épreuves olympiques, là, dans l'ordre actuel des choses, s'ils nagent dans cette eau, ils risquent de prendre des risques qui sont assez importants pour leur santé. Entre autres, des gastro-entérites, des diarrhées, maux de ventre, nausées, vomissements, des dermatites, cette espèce de plaque de démangeaison, des infections aux yeux, aux oreilles, à la gorge. Puis il y en a une autre qui s'appelle la leptospirose et qui a un joli nom, ça s'appelle la maladie du rat. C'est une maladie bactérienne. Ouais, c'est ça, qui peut se transmettre à l'humain lorsqu'il se baigne dans l'eau douce qui est contaminée par l'urine. Alors, les solutions qui avaient été proposées là, par le comité, c'était évidemment, puis par la ville en général aussi, c'était de construire un immense bassin, le bassin d'Austerlitz, qui peut contenir des eaux pluviales au moment où il y a de très, très fortes pluies. C'est un bassin qui peut avoir une capacité de 50 000 mètres cubes. Ça peut aussi contrer les surverses du réseau d'égouts, advenant qu'il y ait ces pluies abondantes. Mais chose assez surprenante, là, c'est qu'on n'avait jamais raccordé, toutes ces péniches-là, puis les bateaux que l'on trouve le long de la Seine, bien, tous ces bateaux où on peut manger, des restaurants là-dessus, bien, tous ces péniches et ces bateaux n'avaient jamais été raccordés au réseau d'égouts. Oh. Alors, c'est ça. C'est que si vous alliez manger là-dedans, puis vous alliez aux toilettes, mais ça tombait directement dans la Seine par la suite. Alors, on veut raccorder tout ça pour évidemment changer la qualité de l'eau. Et aussi, ben, par rapport à ces données, qui étaient quand même assez spectaculaires, il y a des responsables là, qui étaient en charge de la dépollution de la Seine, qui ont dit que les usines de désinfection de l'eau de Paris ne fonctionnent pas justement de septembre à mars. Alors, là, ils disent ça fonctionne en avril et en mai. Bientôt, ils vont faire des tests journaliers pour faire en sorte que l'eau redevienne une qualité qui est acceptable. Parce que au niveau du Comité olympique de Paris, ils ont dit il n'y a pas de plan B. Autant la cérémonie d'ouverture se fait sur la Seine, autant les épreuves de nage en eau libre vont se dérouler dans la Seine. Il n'y a pas de plan B. Alors, ça va se dérouler à cet endroit. Et ils ont dit encore une fois là, que pour donner l'exemple, un peu plus tard, on ne sait pas quand, il n'y a pas de date précise, mais la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, et Emmanuel Macron en personne, vont aller se baigner dans la Seine à un moment donné pour montrer l'exemple que tout est...
Oui, mais c'est parce que... Propre. D'accord, Jean-Luc, mais ça, il nous l'avait dit, on avait compris tout ça, mais là, ce que tu nous amènes, c'est que là, en ce moment, on y est pas du tout, là. Et pourtant, les Jeux olympiques arrivent à grand... Pardon?
Ça arrive vite, c'est au mois de juillet.
Ben oui.
Et surtout, on va avoir un bassin qui va pouvoir permettre peut-être d'accueillir des surverses, mais advenant des grandes pluies, et ça, c'est vraiment l'inconnu, là, advenant des grandes pluies, comme ils ont connu, là, il y a des passages météo en France qui sont assez surprenants, de très chaud à très froid, de très sec à très humide, avec des pluies abondantes. Alors, souhaitons que pour les Jeux de Paris, il n'y ait pas ces épisodes de pluies abondantes, parce que ça pourrait à tout moins contrecarrer un peu les plans de natation en eau libre. Alors, on va voir ce qui va se passer avec ça. Mais c'est un gros pari. On peut pas être contre le fait de dépolluer un fleuve, mais il y a quand même des grandes répercussions et surtout que les athlètes n'en paient pas le prix pour cette Olympiade.
Oui, ben on croise les doigts parce qu'effectivement, puis comme tout le monde entier en parle, tu dis que la France va être vraiment sur la sellette, là, il faut que ça marche.
Ouais, il faut que ça marche. Et un petit sujet de vendredi après-midi, parce que tu sais, je fais du ski en France en ce moment. Et juste parler de ce plan neige qui a été mis en place ici entre les années 1964 et 1977. Qu'est-ce que c'était? Ben, ça avait été décidé de construire de l'infrastructure de montagne. Parce qu'il y a une époque, la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes sont les départements principaux là, où on retrouve les Alpes en général en territoire français. C'était des territoires qui se peuplait. Les gens partaient d'ici, la vie était difficile, l'argent était vraiment pas abondant et les gens quittaient donc ces vallées, ces endroits où ils avaient grandi pour avoir de jours meilleurs ailleurs. Alors le gouvernement est arrivé avec cette idée d'un peu démocratiser le ski. Déjà à l'époque, il s'était rendu compte que la neige était beaucoup moins abondante à faible altitude où on retrouvait des petites remontées mécaniques et il voulait avoir aussi un apport de capital neuf, alors de l'argent du touriste qui proviendrait de l'étranger. Mais pour ça, l'infrastructure était vraiment pas efficace. Et surtout pas tellement fonctionnel, ni par les routes, ni par les hôtels, ni par la qualité des remontées mécaniques non plus. Alors, ils ont visé gros, ils ont visé haut, ils ont visé où ils avaient des neiges éternelles, et ils ont commencé à construire un projet qui était vraiment ambitieux. Ça faisait pas l'affaire de tout le monde, parce qu'évidemment, on déplaçait beaucoup de gens, et on détruisait aussi certaines villes authentiques à grand regret, malheureusement. Mais tout de même, on faisait miroiter une future fortune qui plaisait à bien des gens. Mais comme c'est souvent le cas, et comme c'était souvent le cas à cette époque, ceux qui étaient là de façon originelle n'ont peut-être pas nécessairement tous bénéficié, parce que c'était beaucoup des investisseurs qui provenaient de l'extérieur des Alpes et qui amenaient des idées sans trop consulter les locaux. Entre autres, on a construit, parce qu'on voulait construire 150 000 lits en montagne. En fait, c'est pas vrai, on voulait construire 350 000 lits. Ultimement, on en a construit 150 000 lits. C'est énorme, là. On voulait construire 20 nouvelles stations et profiter de 23 stations qui étaient déjà existantes. Le problème, c'est que on avait pensé à un tout nouveau concept. Tu sais, ces espèces d'années yéyé, là, les années 70.
Oui, oui, oui.
Où on repensait complètement notre rapport à la nature, à la vie, à tout. Alors, l'idée ici, c'était d'avoir de très petits appartements où on pouvait rentrer un maximum de personnes pour ensuite passer plus clair de son temps dans des espaces publics ou alors à l'extérieur, évidemment. Mais si petit, c'était en fait trop petit. Et maintenant, ça a très, très mal vieilli là, pour accueillir des touristes. Alors, ils doivent refaire un peu des infrastructures. Surtout, tu sais, l'espèce de bâtiment que nous, on connaît comme le mur de Fermont. Là,
c'est oui, oui.
Un gros bâtiment monoforme. Ben, c'est un peu ça qu'on a construit. On a complètement mis de côté le